L'atelier des médias, la web émission participative.
RFI.
Philippe Couve, Simon Decreuse.
Et vous.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. On parle ici des médias, de tous les médias que vous suivez et ceux que vous faites, de la presse écrite au blog, de la télé au site de partage vidéo. L'atelier des médias, c'est une conversation à laquelle vous pouvez participer en nous rejoignant sur le web.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Au programme cette semaine, et si les blogs nous aidaient parfois à comprendre l'actualité? Comment les blogs d'experts sont-ils venus au secours des journalistes dans l'affaire de la Société Générale? Nous verrons cela avec Alain Johannes, journaliste et auteur de « Le journalisme à l'heure électronique » aux éditions Vuber. Des images d'Afrique sur le net, c'est ce que propose le site africinvisu.org. Nous parlerons de cette plateforme destinée aux photographes africains avec l'une des fondatrices de ce site, Jeanne Mercier. Et puis direction San Francisco où Francis Pisani nous expliquera que l'on peut penser avec des images, notamment pour mettre en forme des idées complexes. Avant cela, on commence tout de suite avec le mini-journal de la semaine dans le monde des médias.
Atelier@rfi.fr.
T'as vu ça ?
Internet ne tient qu'à un fil, ou à un câble, plutôt un câble sous-marin a été sectionné en Méditerranée. Conséquence, l'accès à Internet est très perturbé au Proche-Orient, au Moyen-Orient et jusqu'en Inde, où les entreprises du secteur des nouvelles technologies à Bangalore notamment risquent le chômage technique. En Égypte, on demande aux internautes de s'abstenir de télécharger pour donner la priorité aux entreprises. Les causes de la rupture du câble sont inconnues et la réparation pourrait prendre 2 semaines. Il y a 10 jours, son nom était inconnu de tous. Aujourd'hui, une recherche sur Google avec le nom de Jérôme Kerviel renvoie 400 000 réponses. Il a sa biographie sur l'encyclopédie coopérative Wikipédia. Le trader de la Société Générale est également devenu une vedette sur le réseau social Facebook où les groupes virtuels se sont constitués pour prendre son parti avec humour souvent. On revient dans un instant sur l'affaire de la Société Générale avec notre invité. Un blogueur arrêté en Birmanie, Naiphone Lat, est membre du parti de la dissidente et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. On ignore les motifs de son interpellation. Et puis au Niger, 2 journalistes nigériens sont toujours détenus pour avoir été en contact avec les rebelles du nord du pays, dont Moussa Kaka, correspondant de RFI, emprisonné depuis le 20 septembre dernier. Pour toutes ces infos, des liens complémentaires sur le site de l'atelier des médias.
L'atelier RFI, c'est de l'internet et de la radio en même temps.
Atelier@rfi.fr.
Where you get the best of both worlds, real people and virtual people.
Ce sont vraiment les internautes qui font le ton du journal et le ton d'édition du jour. Les gens souhaitent de plus en plus être acteurs des médias.
Voilà, ça enregistre.
Oui.
Est-ce qu'on raconte ?
Je viens d'évoquer le nom de Jérôme Kerviel, ce courtier ou trader accusé d'avoir fait perdre près de 5 milliards d'euros à la Société Générale, la banque française. Dans cette affaire, on parle de marché financier des produits dérivés, d'options d'achat, d'options de vente, de couverture de position, de comptes fictifs, de positions masquées. Un langage d'experts que nous sommes peu nombreux à comprendre, peu de journalistes également sont spécialistes de ces questions. Et c'est là que certains blogs peuvent jouer un rôle, c'est votre opinion, Alain Johannes. Vous êtes journaliste, vous êtes blogueur, vous êtes l'auteur de Le journalisme à l'ère électronique aux éditions Vuber. Alors pour vous, comment est-ce que des blogs, certains blogs en tout cas, peuvent nous aider à comprendre ?
Ce sont, sur cette affaire particulière de la Société Générale, des blogs d'experts. C'est-à-dire que, souvenez-vous, jeudi, lors de la conférence de presse du PDG de la Société Générale, beaucoup d'incrédulité, beaucoup d'incohérence dans son propos, donc tout de suite, la théorie du complot, c'est faux, ils ont maquillé une histoire, etc.
Et lui a parlé de terrorisme, même dans sa première intervention.
Etc. Même le mot fraude, enfin, il faut voir ce que ça recouvre, fraude, puisqu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Aucune explication convaincante sur les mécanismes de ce qui a été cet accident bancaire. Bien. Le jeudi soir, je suis alerté par un blog qui me signale qu'un trader est en train de donner des explications fiables sur le mécanisme. Dans ce blog, effectivement, il y a un début d'explication beaucoup plus convaincant que les explications données par Daniel Bouton. Pourquoi ? Parce que le PDG n'a pas les mains dans le cambouis, comme on dit, il n'est pas toujours en train de... Et tout de suite, une conversation s'engage entre plusieurs traders qui ont leur propre blog ou qui viennent commenter, et ils parlent en gens du métier, c'est-à-dire qu'ils m'expliquent ce qui a bien pu se passer.
Comment vous êtes sûr que ce sont des traders ?
Oh ben c'est facile à vérifier, c'est-à-dire j'ai eu à peu près une douzaine de blogs. Je vois bien au ton général, en regardant l'antériorité, l'historique des billets, qu'ils ne parlent que de ça, que ce sont des passionnés, qu'ils rivalisent d'érudition et de savoir-faire dans leurs blogs, dans leurs billets et dans leurs commentaires.
Sur ce secteur-là en particulier.
Sur ce secteur-là. Ils ne parlent pas de recettes de cuisine ou de la basse Fender pour faire du funk. Non, ils ne parlent que de ça et ils en parlent. J'ai un peu de connaissances économiques, hein, mais je ne suis pas spécialiste des marchés, des futurs, des produits dérivés dont vous avez parlé. Donc, je peux quand même renifler une ambiance mentale, si j'ose dire, où les blogueurs...
Ils ont l'air de s'y connaître.
Ah, ils s'y connaissent. En tout cas, plus que moi. Et du coup, je suis les commentaires, je suis les billets, les controverses entre eux. Je vois qu'il y a en même temps une rivalité pour celui qui en saura le plus sur ce qu'a pu faire Jérôme Kerviel, et en même temps de l'estime, parce que il s'agirait pas, si j'avais avancé un commentaire de Béotien complètement stupide, je me serais fait, entre guillemets, ramasser. Je ne faisais pas partie de cette élite professionnelle qui discutait. Et j'ai eu des explications, en tout cas des zones de flou ou d'ombre dans le discours de Philippe Citerne de la Société Générale et de Daniel Bouton se sont un petit peu évanouis et j'ai eu des précisions.
On comprend mieux le mécanisme, comment fonctionnent ces salles de marché, comment fonctionnent les gens qui travaillent dans ces salles de marché, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Voilà, et on comprend mieux, en même temps, ça va plus loin que les mécanismes, parce qu'au fur et à mesure que ces gens discutant entre ces traders qui étaient à Paris et aussi à Londres, c'est très important parce que la Société Générale à beaucoup de traders à la City, ces gens-là discutaient d'abord pour essayer de comprendre eux ce qu'avait fait leur confrère Jérôme. Bon, déjà, c'est comme si vous aviez des mécaniciens, 15 ou 20 mécaniciens penchés sur le moteur de votre voiture en panne et qui vous disent non, c'est pas le Delco, c'est le carburateur, etc. Donc, déjà, ils essayaient de comprendre entre eux, de s'expliquer. Et donc, moi, béotien, enfin, presque béotien, avec des notions économiques, je commençais à me dire, mais c'est ça, ce qu'ils sont en train de dire en se mettant d'accord, en faisant un consensus sur ce qui a pu se passer, ça ne colle pas avec ce qu'a dit Daniel Bouton quelques heures auparavant. Donc ces gens du métier, qui font la même chose que Jérôme Kerviel, sont en train de corriger les à peu près de Daniel Bouton, voire les inexactitudes, voire parfois de mettre le doigt sur des incohérences et probablement pas des mensonges, mais enfin c'est de l'intox, quoi.
Si on élargit un peu le propos, ça veut dire que on dit souvent que la blogosphère, les blogs, c'est quelque chose de peu fiable. Ça veut dire néanmoins que pour les journalistes et peut-être pour le commun des mortels, il y a quand même des choses intéressantes, des informations à trouver sur les blogs.
Absolument. En moyenne, hein, sur l'ensemble de la blogosphère, je me suis livré dans ce livre à des petits calculs. Disons que pour un journaliste ou pour un citoyen exigeant qui veut être bien informé, etc., 20% des blogs peuvent être a priori intéressants. 20%, hein. Les blogs de témoins, des gens qui ont assisté à un événement où les journalistes ne pouvaient pas être. Je cite l'exemple d'un pilote privé qui se trouvait à bord d'un avion qui a subi une énorme dépressurisation brutale à 7000 mètres d'altitude, pas loin de Seattle, et qui, étant pilote privé, a compris avant les pilotes.
Lui, il était passager dans l'avion.
Il était passager. Il a fait même des photos avec son appareil nomade équipé d'un mégapixel. Et il a raconté dans le blog ce qui s'était passé. Et ce qu'il a soulevé, aucun journaliste n'était là. Lui est un expert, mais en même temps un témoin. Et c'est arrivé sur une histoire fantastique où la compagnie aérienne, pour faire des économies, avait licencié des bagagistes syndiqués, avait embauché des bagagistes non syndiqués et non compétents. Un bagagiste avait lancé son chariot contre l'avion à l'arrière, mais n'avait pas osé le dire de peur de se faire licencier.
Il y avait un
trou dans la carlingue. Les pilotes, ni la tour de contrôle ne l'avaient. Et lui, pilote privé, témoin et blogueur, l'a su et a raconté. Ça a libéré dans les commentaires des contre-commentaires de la compagnie aérienne, mais aussi des témoignages d'employés de la compagnie qui ont dit « mais si, ils font des économies pour servir des dividendes aux actionnaires ». C'est devenu non pas un incident aérien comme il s'en passe tant, mais c'est devenu, grâce à ce témoin où il n'y avait absolument pas de journaliste, un dossier social et économique. Alors, par ailleurs, sur la Société Générale, je suis abonné à des flux d'une vingtaine de blogs de traders, mais je ne vais pas les garder, parce qu'à un moment donné, je vais aller sur une autre actualité, je vais trouver mes blogueurs experts, et je vais suivre, après en avoir éliminé les moins fiables, etc., je garderai que les plus fiables, les plus crédibles, et j'ai parfois des explications sur ce qu'un journaliste ne peut pas tout savoir. Il faut parfois s'intéresser à des spécialistes.
Aujourd'hui, les journalistes, ils savent utiliser... à bon escient les blogs ?
Non, je crois que la majorité de nos confrères, sauf vous et plusieurs autres, pensent que les blogs, comme le web, ce n'est qu'un moulin à rumeurs, les blogs, c'est pas sérieux, c'est des cancans, etc. Oui, bien sûr, quand je dis que en moyenne, 20% des blogs peuvent être intéressants, ça veut dire que 80% sont respectables parce que des gens y donnent leur opinion, donc toute opinion respectable. Mais pour un journaliste professionnel, curieux, qui veut vérifier, qui veut aller au-delà du discours officiel, 20% de la blogosphère francophone et anglophone comme outil de vérification, et parfois donne des angles, parfois il y a des réactions de blogueurs qui font que le journaliste se dit « Tiens, mais je n'avais pas pensé à ça. Et si j'allais fouiller par là ?» Voilà, c'est un apport considérable. Mmh. Ça enrichit le métier.
Alain Joannès, on se retrouve, si vous le voulez, dans le bonus de l'émission pour poursuivre la discussion et peut-être pour donner quelques-uns des conseils que vous délivrez dans ce livre aux journalistes pour utiliser pleinement les ressources que nous offre Internet.
D'accord.
http://atelier.rfi.fr
RFI.
Philippe Couve, Simon de Creuse.
Et vous,
participez avec nous à la fabrication des émissions.
J'ai le plaisir de recevoir maintenant l'une des membres de l'Atelier des médias. Bonjour Jeanne Mercier.
Bonjour.
Alors vous vous êtes inscrite sur le site de l'Atelier des médias et vous nous avez parlé de votre site africinvisu.org, un site destiné aux photographes africains, c'est ça ?
Oui, en fait c'est une plateforme participative pour les photographes, pour
diffuser
leur image.
Alors ça veut dire quoi ?
En fait c'est une plateforme d'échange autour du métier de photographe en Afrique, qui sert aux photographes, aux écoles de photos et aux historiens de l'image pour mieux connaître le travail des photographes et échanger leur savoir-faire.
C'est-à-dire, moi je suis photographe, je suis en Afrique, je peux aller mettre en ligne des photos sur votre site, c'est ça ?
Voilà, il y a juste à s'inscrire et vous pouvez diffuser vos images, vos textes et expliquer un peu aussi les politiques culturelles de votre pays.
C'est gratuit ?
Oui.
Et on peut également échanger avec d'autres photographes sur les techniques, sur...
Alors à cet usage, en fait, il y a un forum, bien sûr, où on peut échanger, mais aussi à travers les billets. Donc quand un photographe parle un peu de la politique culturelle envers la photographie dans son pays, chacun peut intervenir, poser ses questions, mais aussi tout à la fois les questions techniques. Quand on aime bien le travail d'un photographe et qu'on voudrait savoir comment il travaille, on peut lui poser des questions et lui demander quel appareil il utilise, pourquoi, comment il s'est fait connaître et pourquoi il a pu exposer dans telle ou telle exposition.
Alors vous avez, si j'ai bien compris, vous avez créé ce site à Bamako. Oui. Comment est née cette aventure ?
En fait, ce site a été cofondé avec un photographe, donc un photographe professionnel. Et nous sommes partis à Bamako parce que je réalisais des recherches sur la Biennale de Bamako, donc qui est une grande biennale de photographie internationale. Et on a décidé de partir à Bamako où il y a une école de photo et de travailler en collaboration avec cette école pour monter le blog. Donc grâce à ça, on a pu travailler directement avec des photographes, des étudiants photographes et aussi des historiens. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le Mali et très vite, ça s'est étendu à d'autres pays, entre autres le Maroc, le Congo-Brazzaville, qui via la blogosphère ont commencé à nous contacter pour diffuser eux-mêmes leurs images.
Alors vous avez parlé du Congo-Brazzaville, et bien direction Brazzaville tout de suite, où on va retrouver Baudouin Mwanda. Vous êtes là ?
Oui, je suis en ligne.
Alors vous êtes photographe, vous êtes présent sur ce site Afrique Invisu. Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Pour nous, l'Afrique
Indigi, ça réprime d'abord beaucoup en ce qui concerne la photographie africaine et qui est longtemps restée dans l'ombre. Je prendrai par exemple le collectif Génération Indigi qui a vu son jour, c'est grâce en même temps d'une plateforme Afrique Indigi. Aujourd'hui, on est beaucoup vu et beaucoup de gens nous connaissent maintenant, mais c'est grâce à Afrique Indigi. Et je dirais en même temps qu'il n'y a pas seulement le collectif Génération Indigi, tel que le travail que Afrique Indigi est en train de mener en ce qui concerne la photographie africaine est tellement important, parce qu'au départ, on avait vraiment du mal à connaître le travail d'autres photographes africains. Mais depuis que Afrique Indigi est en place, nous aujourd'hui, on maîtrise bien les photographes africains, on sait qui fait quoi et qui est en train d'avancer en même temps. Et pour se donner, je dirais en même temps que c'est pas seulement au niveau de l'Afrique qu'ils ont arrivé à faire des choses, mais moi, pendant ma présence en France, où j'ai suivi une formation photojournaliste, on a eu en même temps à faire beaucoup de choses avec la plateforme Afrique Indigi, d'où on a essayé d'animer des conférences au 10e et en même temps des différentes expositions où ils m'ont accompagné. Et ça devient pour ça, cela qui permet en même temps à se transformer en un véritable réseau au niveau des photographes africains.
Jeanne Mercier, c'est ça la mission d'Afrique Invisu, c'est vraiment de permettre cette propagation d'images d'Afrique faites par des Africains sur le web et à travers le monde.
C'est l'un des objectifs, mais le premier objectif, c'est vraiment de créer un réseau de photographes africains qui puissent échanger entre eux. Bien sûr, la diffusion a un énorme rôle. En fait, ce que Baudouin ne dit pas, c'est qu'on a eu la chance, c'est l'un des blogueurs dont on a eu la chance de rencontrer en France, puisqu'il est venu faire une formation au CFPJ. Et on a pu le rencontrer, et grâce à ça, on a pu organiser une exposition ensemble à Paris, organiser des projections, montrer son travail, et même organiser des conférences autour du métier de photographe en Afrique, pour faire connaître son collectif, donc le collectif Génération Elili, et parler aussi d'autres photographes qu'il connaît bien, qui ont pu participer au jeu de la francophonie avec lui. Et on a pu vraiment créer un réseau et former aussi Baudouin à l'outil d'Afrique Invisu.
Alors, question sur le site de l'atelier des médias de Cédric Kalonji, qui est à Kinshasa, au Congo démocratique, de l'autre côté, face à Brazzaville. Il nous demande comment on peut régler le problème d'infrastructure, d'accès à Internet, parce que mettre des photos en ligne, ça veut dire avoir un bon accès à Internet, et c'est ça qui pêche souvent en Afrique, c'est ça qui fait défaut.
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas nier, surtout au Congo-Brazzaville. Après, c'est très différent dans chaque pays avec lequel on travaille. Pour le Congo-Brazzaville, la plupart des photographes avec qui nous travaillons se servent du relais du Centre culturel français, par exemple, pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir diffuser leurs images. Après, ils vont être souvent amis avec un cybercafé qui va leur faire un prix ou qui va essayer de les diffuser. C'est un peu de la débrouille. Mais nous, on arrive à avoir des photographies de très bonne qualité assez régulièrement. Je pense que ça demande un gros travail sur place pour eux. Mais c'est vrai que sur le résultat, on arrive à avoir des belles galeries. Et après, grâce à ça, ils peuvent être contactés par des journaux comme donc Planète Jeune, Jeune Afrique. On a pas mal de photographes avec qui on travaille, qui par l'intermédiaire du site se sont fait connaître et ont pu exposer, entre autres, pendant la biennale de photo quai organisée par le musée du Quai Branly. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échos dans les 6 derniers mois.
Alors je recommande à propos des galeries photos, notamment celle de Baudouin qu'on vient d'entendre sur les sapeurs de Brazzaville, qui est particulièrement intéressante. Si vous en êtes d'accord, on poursuit cette discussion dans les bonus de l'atelier des médias, en parlant peut-être d'un travail que vous initiez, qui est né peut-être un peu en quelque sorte sur le site de l'atelier des médias, autour des blogs africains. Avant cela, on va retrouver Francis Pisani à San Francisco. Merci Jeanne Mercier.
Quand on veut dire ce qu'on a à dire, il n'y a plus de télévision. Et si c'est moi qui dis ce que j'ai envie de dire, plus personne ne veut me donner la parole.
Today we'll show you the growing power of the internet. Digital journalism.
C'est simple, je clique sur ajouter un article. Si je veux mettre une photo, je clique sur mettre une image. Je mets mettre en ligne l'article et l'article se met en ligne automatiquement.
Blog, blog, blogueur, blog, pas de blog, blog.
Et je pense que grâce à Internet, on peut avoir cette proximité qui nous manquait un peu.
Francis Pisani, bonjour.
Bonjour Philippe Couve.
Alors on se retrouve comme chaque semaine en ligne de San Francisco et on parle aujourd'hui d'un sujet que je ne connais absolument pas. Il s'agit d'intelligence et de pensée visuelle, c'est quoi exactement ?
D'abord, je salue les sujets que tu ne connais pas, ils ne sont pas fréquents. Il s'agit d'une réunion, d'une conférence qui s'appelle VisThink 08, c'est-à-dire pour l'année 2008. C'est une première réunion de la communauté des penseurs visuels, des gens qui sont convaincus du pouvoir de ce qu'on voit. Leur définition, parce qu'ils en ont une officielle, c'est, je cite, « des gens qui utilisent n'importe quelle forme d'art visuel, tel que dessin graphique, illustration, photo, vidéo, animation, croquis, 3D, etc., pour la communication et pour l'enseignement. » En fait, il y a des gens, comme toujours, qui pensent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Si on ajoute à ça la numérisation de toutes les formes d'expression, on a un outil, une forme d'expression qui est encore plus puissante. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se réunissent et qui travaillent là-dessus.
Mais est-ce que c'est vraiment sérieux ? C'est le texte qui est plus important, non ? C'est vraiment quelque chose d'important, ces images ?
C'est très important. D'abord, ça fonctionne sur la base du mélange des mots, des symboles et des images, éventuellement animées. Il y a de très belles vidéos. Ensuite, je pense qu'il y a trois éléments très importants aujourd'hui. Un, ça permet de mieux faire face à l'excès d'informations. Deux, ça permet de transmettre des idées complexes quand c'est bien fait. Quelquefois, ça ne marche pas, mais quand c'est bien fait, c'est très fort. Par exemple, Al Gore, le succès d'Al Gore est entre autres dû à ces images pour la communication des problèmes de l'environnement et du réchauffement global. Troisièmement, détail qui n'en est pas un, ça facilite la communication globale. Il suffit de penser, par exemple, aux panneaux routiers ou à ceux qu'on trouve dans les aéroports qui sont compréhensibles par tout le monde sans utiliser des mots.
Alors si j'ai bien compris, ça permet un peu d'organiser ses idées, d'organiser sa réflexion et de la partager. Est-ce qu'il y a des choses que nous, simples utilisateurs d'Internet, on peut tester, on peut essayer ?
Je retiens deux programmes qu'on peut essayer gratuitement et qu'au bout d'un moment, il faut payer. En tout cas, le premier, le second, il y a une version gratuite pour toujours. Le premier s'appelle Mind Manager. C'est un système de cartes des idées, de cartes des concepts, qui utilise la représentation graphique. Ça peut être utilisé aussi pour les tâches. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler la partie droite du cerveau, celle qui fonctionne sur la base des intuitions et des images. Ce que j'aime bien dans ce système, c'est que c'est pas linéaire. On peut mettre un projet, un organigramme, on peut faire ça dans le désordre, c'est pas un problème. Ensuite, on les réorganise et on peut écrire, par exemple, son article. Moi, je m'en sers pour les articles longs, pour les structures de cours, et quelquefois, je m'en sers à la place du PowerPoint, parce que le PowerPoint, c'est linéaire, alors que ça permet de passer d'un point à l'autre d'une façon plus libre. Le deuxième programme, qui est encore mieux à mon avis, c'est The Brain, une façon d'organiser différemment la tête et l'ordinateur sur la base des associations. Dans un ordinateur, on a des dossiers, les choses sont dans un seul endroit, on peut mettre des tags qui permettent de retrouver des choses à partir de plusieurs étiquettes, et il manquait les liens. Par exemple, je peux mettre Philippe Couve, qui est un individu, je le mets dans un lien avec journaliste, je mets un lien avec RFI où il travaille, avec CFJ où il donne des cours, et à chacune de mes chroniques que je fais pour lui. Et donc, ça me permet des associations qui correspondent un peu mieux à la façon dont travaille le cerveau.
Alors, on pourra retrouver, Francis, sur le site de l'Atelier des médias, des liens qui conduisent vers ces différentes applications, ces différents programmes. Merci, Francis, d'avoir été en ligne avec nous de San Francisco. Francis Pisanic, qui chronique quotidiennement les évolutions, révolutions de la société numérique sur le blog Transnet, Transnet au pluriel. À la semaine prochaine, Francis.
À la semaine prochaine, Philippe.
L'Atelier des médias. La web émission participative.
C'est presque la fin de l'émission. Vous avez déjà des idées pour les prochaines ? Rendez-vous sur le site de l'Atelier des médias.
Participez avec nous à la fabrication des émissions.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 15 de l'Atelier des médias, proposée par Philippe Couve et Simon Decreuse, avec Cécile Fournier à la technique. Voilà, c'est fini ici, mais ça continue sur le web. Vous tapez Atelier des médias dans votre moteur de recherche et vous arrivez chez nous. Salut à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini ?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.